DW. Droits et libertés.
C'est alors que j'ai vu un éclair bleu et blanc par la fenêtre. L'instant d'après, j'ai eu l'impression de voler dans les airs. Nous avons été projetés en l'air par l'onde de choc de la détonation.
Ce souvenir, c'est celui de Setsuko Turlo. Elle l'a confié à la Deutsche Welle il y a quelques années de cela. Le 6 août 1945, elle se trouvait à Hiroshima quand un bombardier américain a largué Little Boy sur la ville. La toute première bombe atomique de l'histoire utilisée contre des humains. Aujourd'hui, 80 ans plus tard, Setsuko a 93 ans et elle continue de militer contre l'arme nucléaire dans un monde qui a relancé sa course à l'armement. Sandrine Blanchard au micro, bonjour et bienvenue tout le monde. Il est 8h15 du matin, le 6 août 1945, quand la bombe explose à Hiroshima. Entre 80 000 et 136 000 personnes sont tuées sur le coup ou décèdent un peu plus tard de leurs blessures. À l'époque, Setsuko Turlo a 13 ans, elle va à l'école. Depuis, elle n'a eu de cesse de raconter cette journée où tout a basculé.
Petit à petit, j'ai pu discerner des formes. C'était des gens, mais qui n'avaient pas du tout l'air d'humains. Leurs cheveux étaient dressés sur la tête. Leur chair et leur peau pendaient de leur os. Il leur manquait des membres. Et j'ai même vu quelqu'un courir en tenant ses propres yeux dans ses mains.
Les parents de Setsuko ont survécu à la bombe, comme elle. Mais sa sœur et l'une de ses nièces sont mortes quelques jours seulement après l'explosion. Et c'est ce traumatisme qui a poussé Setsuko à consacrer sa vie entière à lutter contre les armes nucléaires. Elle est devenue l'une des figures de l'ICAN, qui est une organisation internationale basée en Suisse, qui milite pour l'abolition totale des armes nucléaires. Cette structure a obtenu le prix Nobel de la paix en 2017, et c'est d'ailleurs Setsuko Turlo qui a tenu le discours le jour de la cérémonie à Oslo. La bombe, larguée le 6 août 45 sur Hiroshima, ne suffit pas à l'époque à faire plier le Japon qui refuse de capituler sans condition. L'Empire japonais est à l'époque un allié de l'Allemagne nazie et donc un ennemi des États-Unis. Le président américain, Harry Truman, ordonne alors de larguer une autre bombe sur le Japon, d'une autre sorte que celle d'Hiroshima. Et c'est d'abord la ville portuaire de Kokura qui est choisie pour être ciblée. Mais à cause du mauvais temps, le bombardier américain doit faire demi-tour et ne largue finalement sa cargaison atomique que le 9 août sur la ville de Nagasaki. Là encore, des dizaines de milliers de personnes meurent sur le champ. La Seconde Guerre mondiale s'arrête peu de temps après, en Asie aussi. Mais des centaines de milliers de personnes vont souffrir leur vie entière des répercussions de ces deux bombes atomiques sur le Japon à cause de leurs brûlures, de cancers qu'elles développent un peu plus tard ou de malformations de leurs enfants dues au rayonnement radioactif. Aujourd'hui encore, on ne connaît toujours pas avec exactitude l'ampleur des dégâts engendrés par ces deux bombes. Depuis 1947, on sonne la cloche de la paix à Hiroshima tous les 6 août à 8h15. Une cérémonie est organisée en l'honneur des victimes. Le maire en exercice appelle chaque année à l'abolition des armes nucléaires et à la paix dans le monde. C'est un rituel depuis près de 80 ans maintenant. Dès 1946, le Japon a adopté une constitution de la paix dans laquelle il s'engage à ne plus jamais faire la guerre. Et en 1967, le pays a adhéré au principe dit anti-nucléaire qui rejette même la détention ou l'achat d'armes atomiques. Spécialiste du Japon, Takuma Melba enseigne à l'université de Heidelberg en Allemagne.
Au Japon, on tient beaucoup à ce message de paix, aux cérémonies du souvenir pour les victimes de ces deux bombes nucléaires. Le plus jamais de guerre, plus jamais de bombes atomiques. Le Japon se conçoit comme un pays qui défend la paix dans le monde.
Un discours pacifique qui, bien sûr, ne doit rien au hasard.
Le Japon est une nation marquée par son histoire, en lien avec les catastrophes nucléaires. Il y a les deux bombes atomiques et puis la gigantesque catastrophe de Fukushima en 2011. Le Japon a été victime à la fois du nucléaire militaire et du nucléaire civil.
Après la Seconde Guerre mondiale, le Japon et les États-Unis, anciens ennemis, se rapprochent à nouveau. Les Américains n'ont pourtant jamais présenté leurs excuses pour les deux bombes atomiques. Le Japon n'a jamais rejoint aucune alliance militaire, donc pas l'OTAN non plus, mais il est considéré comme un partenaire de choix par Washington. Les USA se sont engagés à protéger le Japon à l'aide de l'arme nucléaire s'il le faut. Saviez-vous par exemple que près de 54 000 membres de l'armée américaine sont toujours stationnés au Japon en 2025.
Le Japon a l'impression d'être exposé. Il y a la Chine, la Corée du Nord qui ne sont pas loin. Ce n'est pas comme en Allemagne. Ici, quand la Russie envahit l'Ukraine, la plupart des gens ont l'impression que tout cela est assez lointain. Nous pourrions nous inspirer davantage du sérieux des Japonais qui ont opéré un changement radical.
Celui que vous venez d'entendre s'appelle Nico Lange, il est expert en sécurité, nous allons le réentendre tout à l'heure. L'Allemagne comme le Japon ont décidé d'augmenter leurs dépenses militaires. D'ailleurs, l'année dernière a été dépensé le plus gros budget en armes et matériel de défense jamais enregistré depuis la fin de la guerre froide dans le monde. Des chiffres constatés et dénoncés par le CIPRI, qui est un institut de recherche sur la paix basé à Stockholm, en Suède. Les dépenses mondiales ont augmenté de 9,4% en 2024 par rapport à l'année précédente. Les grandes puissances nucléaires comme les États-Unis, la Russie ou la Chine principalement investissent des sommes considérables pour moderniser leur arsenal nucléaire. Et le directeur du CIPRI estime que de plus en plus de pays sont soit désireux de développer eux-mêmes leurs propres armes nucléaires, soit prêts à en stationner sur leur territoire national. La tendance, qui était plutôt au désarmement et au démantèlement durant les deux dernières décennies, est donc en train de s'inverser. C'est aujourd'hui la Russie qui dispose du plus grand arsenal nucléaire au monde, avec, selon le CIPRI, 5459 ogives. Depuis le début de la guerre en Ukraine, Vladimir Poutine a menacé à plusieurs reprises les pays qui soutiennent l'Ukraine d'utiliser des armes nucléaires contre eux. La deuxième puissance nucléaire au monde, ce sont les États-Unis qui disposent de 5177 ogives. Ils sont suivis de loin par la Chine, la France, la Grande-Bretagne, l'Inde, le Pakistan, Israël et la Corée du Nord. Ces pays sont les seuls à disposer officiellement de l'arme atomique. D'un point de vue historique, il existe de nombreuses similitudes entre le Japon et l'Allemagne en matière d'armement nucléaire. C'est ce que nous explique Nico Lange.
Les deux pays partagent une prise de position commune contre l'arme nucléaire et en faveur du désarmement.
Si jamais des armes nucléaires étaient utilisées depuis le Japon ou l'Allemagne, ces deux pays n'auraient aucune liberté d'action. Ce sont les États-Unis qui auraient le dernier mot. En fait, en Allemagne, on parle de participation nucléaire. Ça permet au pays qui n'est pas doté d'armes nucléaires de participer quand même au programme nucléaire américain. Les experts estiment que 20 bombes atomiques américaines sont stockées dans la ville de Büchel, en Rhénanie-Palatinat, c'est-à-dire dans le sud-ouest de l'Allemagne. Et d'après l'ICAN, chacune de ces bombes de modèle B-61 aurait une puissance 13 fois supérieure à celle larguée à l'époque sur Hiroshima. Or, puisque ces armes sont américaines, il revient au président américain en exercice de décider de leur éventuelle utilisation. Cependant, les armes nucléaires seraient alors larguées par des avions allemands de la Bundeswehr. 36 bombardiers Tornado allemands sont d'ailleurs mis à disposition à cet effet depuis 1984. Alors, l'Europe a-t-elle besoin de davantage d'armes nucléaires ? La guerre d'agression menée par la Russie contre l'Ukraine a fait s'élever des voix qui réclament que l'Allemagne ait un accès plus direct aux armes nucléaires. Cette revendication a récemment été reprise notamment par Jens Spahn, qui est le chef du groupe parlementaire des partis de la droite conservatrice, CDU-CSU, au Bundestag. Nous devons discuter d'une participation allemande ou européenne à l'arsenal nucléaire français ou britannique, voire d'une participation propre avec d'autres États européens. Voilà ce qu'a déclaré Jens Spahn dans une interview. Pour rappel, la CDU est le parti du chancelier allemand actuel Friedrich Merz. Au Japon non plus, l'appel à se doter de ses propres armes nucléaires n'est plus un tabou. La Corée du Nord et la Chine sont ressentis comme des menaces directes qui inquiètent la population japonaise. Et la guerre en Ukraine a aussi conduit à un changement de mentalité au Japon. Certes, les trois principes de non-appropriation, de non-production et de non-importation d'armes nucléaires restent en vigueur. Cependant, selon certains responsables politiques japonais, il serait tout à fait envisageable de réfléchir à la constitution d'un petit arsenal nucléaire au Japon, mais ces réflexions se heurtent encore à une forte opposition pour l'instant. Le Japon reste donc une société fortement pacifiste, c'est ce que rappelle Takuma Melba de l'université de Heidelberg.
Au Japon, on répète sans cesse ce mantra. Il ne faut plus jamais redevenir une puissance impérialiste dans cette région. Le Japon se place clairement sous la protection des États-Unis. Cela fait une grande différence par rapport aux Européens. Les Japonais l'ont fait de manière relativement forte, y compris pendant la première administration Trump.
80 ans après les bombardements atomiques d'Hiroshima et de Nagasaki, les témoins oculaires ne sont plus très nombreux, bien sûr, à pouvoir raconter leur expérience et à pouvoir mettre en garde l'humanité. Ces témoins sont appelés Hibakusha au Japon, et Setsuko Turlo, qu'on entendait au début, en fait partie, et elle veut continuer, du haut de ses 93 ans, à parler tant qu'elle le pourra.
Nous avons encore 16 000 de ces armes. C'est fou et même criminel. Je ne cesserai jamais d'expliquer aux gens que nous vivons encore à l'ère du nucléaire. C'est pourquoi nous ne nous tairons pas. Les politiciens continuent d'en construire toujours plus. Au lieu d'un seul État doté d'armes nucléaires comme à l'époque, il y en a 9 aujourd'hui. Nous devons stopper ce processus.
Voilà, nous arrivons à la fin de cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci aussi à Volker Witting pour les sons. Si vous souhaitez réécouter, partager, commenter Droits et Libertés, rendez-vous sur notre site internet dw.com/français ou sur la plateforme de podcast de votre choix. Rendez-vous la semaine prochaine et d'ici là, ne lâchez rien. Close your eyes, your tired eyes. Lay down, go to sleep. Good dreams, little